France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, question sur les conséquences du changement climatique sur la biodiversité en général et sur notre santé en particulier. On a appris il y a quelques jours en effet que le moustique tigre était désormais présent dans 42 départements métropolitains, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'Hexagone. Or ce moustique est potentiellement vecteur de virus comme celui de la dengue ou du chikungunya. La Haute Autorité de Santé appelle d'ailleurs à la vigilance car avec les températures actuelles, ce moustique se régale. Mais au-delà de ce cas bien particulier, il y a les conséquences plus générales du changement climatique sur les espèces végétales et animales qui contribuent à l'équilibre de toute la planète et à notre survie à nous aussi accessoirement car nous sommes une seule et même chaîne. Plusieurs études récentes ont confirmé que bien des espèces et pas des moindres étaient menacées. Le lion, le tigre ou l'éléphant, rien que ça. Mais aussi les oiseaux, ils sont de moins en moins nombreux dans nos campagnes alors que les cigognes, elles, renoncent de plus en plus souvent à migrer vers l'Afrique. Elles passent désormais l'hiver dans le sud de l'Europe où elles trouvent de quoi manger. Alors ce soir, on répond à vos questions sur les conséquences du changement climatique sur la biodiversité et notre santé. Pour cela, à nos côtés, deux invités, l'écologue Franck Courchamp, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la dynamique des populations et de l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Bonsoir Franck Courchamp.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes basé à Paris-Sud-Orsay et que vous êtes l'auteur de L'écologie pour les nuls chez First Edition. En duplex de Montpellier, Jean-François Guégan, qui lui est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste des conséquences du changement climatique sur la santé, professeur à l'École des hautes études en santé publique. Bonsoir Monsieur Guégan.
Bonsoir.
Et merci à nos confrères de France Bleu Hérault pour cette liaison à distance.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui de Jean-Marie qui nous appelle de la Haute-Marne, je pense. Bonsoir Jean-Marie.
C'est ça, oui, bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci. Alors justement, j'appelle de la Haute-Marne, qui n'est pas un endroit réputé pour avoir eu des hivers particulièrement cléments, mais il n'y a plus d'hiver chez nous. Il n'y a plus d'hiver du tout. On a des hivers à 6 degrés, on a des chutes de neige insignifiantes, on a des passages de gel. Allez, c'est descendu à moins 8 cette année, mais sur 3 jours. Et l'été, il fait 40 degrés, quoi, à l'ombre.
Et l'être humain que vous êtes souffre ?
L'être humain que je suis, il a 70 ans, alors pour moi, l'avenir, il est pas tellement derrière moi, mais alors, j'en souffre pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et puis j'en souffre parce que tout le monde s'en fout. Voilà, je le constate. Quand j'en parle, je passe pour l'emmerdeur.
Et sur la nature autour de vous, vous voyez des conséquences ?
Alors, la nature autour de moi, il y a deux conséquences. Il y a le réchauffement climatique, parce que ça, quand même pas le nier. Et il y a aussi la pollution agricole. Ça, c'est clair. Il n'y a plus une fleur dans les champs. Les graines sont enrobées, etc. Et il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'oiseaux. Cette année, j'habite une grande maison avec une grange et tout. Il y a des nids, il y avait 3 nids. Je n'ai pas une hirondelle dans le nid, quoi, dans les nids. Et dans tout le village, moi, j'ai vu un couple d'hirondelles cette année, un couple. Alors c'est ça, là c'est du jamais vu, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ce témoignage.
Surtout les abeilles, ma vigne vierge qui tapisse la maison bruissait dès le printemps, il n'y en a plus non plus.
Merci beaucoup Jean-Marie de nous avoir appelé. Franck Courchamp, il n'a pas d'hirondelle Jean-Marie, mais pourtant c'est le printemps. Qu'est-ce qui se passe?
Alors en fait, il y a plusieurs choses là qui sont...
Beaucoup de choses dans son témoignage.
Voilà, qui arrivent de manière concomitante. L'impact des activités humaines sur la biodiversité est assez divers. Il y a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui peut agir sur la biodiversité de diverses manières et on va le voir tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a la dégradation de l'habitat. Il y a la pollution avec les pesticides. Et les différentes populations animales et végétales ne sont pas touchées par tous ces facteurs au même niveau. Les hirondelles sont pas forcément touchées par le changement climatique, même si toutes les actions jouent ensemble. Le fait qu'il n'y ait plus d'abeilles, par exemple, on sait que c'est principalement
les pesticides
qui posent des problèmes. Il y a d'autres problèmes également. Il peut y avoir des problèmes dus à des invasions biologiques, notamment du frelon asiatique.
Sur les oiseaux, Franck Courchamp, parce que quand même on a eu des chiffres relativement récents, c'était une étude du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle, si je ne me trompe, mm-hmm. sur les oiseaux des campagnes qui nous disent qu'en 15 ans, le tiers de ces oiseaux ont disparu. Ça, c'est un fait.
Ah, c'est un fait, et puis c'est un fait vraiment assez catastrophique, sans faire de catastrophisme. Mais c'est principalement dû au mode agricultural intensif qu'on a en France et en Europe, au fait qu'on n'a plus d'habitat pour les oiseaux, qu'il n'y a plus assez de forêt, qu'il n'y a plus assez de haies entre les champs, au fait qu'ils n'ont plus assez de proies parce que tous les insectes disparaissent à cause des insecticides. Mais ça ne veut pas dire
donc
que le changement climatique...
Donc vous tenez à relativiser la question du changement climatique.
Non, pas du tout, parce que le problème du changement climatique sur la biodiversité, c'est que c'est en train d'arriver et qu'on n'a pas encore vraiment tous les chiffres. Il faut à peu près une cinquantaine d'années pour déclarer qu'une espèce est éteinte. Et puis, il faut voir cet effet. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et le changement climatique, on est seulement en train de voir les premiers effets. Pour ce qui concerne les oiseaux, plusieurs études suggèrent qu'on pourrait perdre d'ici quelques décennies entre un huitième et un tiers de toutes les espèces d'oiseaux dans le monde à cause du changement climatique, qu'il faut rajouter aux autres effets.
À ce qui se passe pour l'instant. Jean-François Guégan, qui est en duplex de Montpellier, vous avez entendu vous aussi le témoignage de Jean-Marie qui nous appelait de la Haute-Marne. Qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre ?
Oui, on voit bien à travers la question de notre auditeur ce soir que le sujet du changement climatique est devenu, je dirais, très générique. On parle du changement climatique, mais on parle aussi de pollution atmosphérique, on parle de l'utilisation des pesticides et autres. Mais c'est aussi la difficulté que nous avons en tant que chercheurs de décortiquer dans les chevaux, si vous voulez, quels sont les facteurs entre le changement climatique, la pollution responsable, par exemple, de l'apparition ou des développements d'un certain nombre d'organismes. On pourra discuter ce soir du moustique-tigre, certainement, dont vous avez déjà parlé, mais la propagation du moustique-tigre dans les départements français n'a quasiment rien à voir avec le changement climatique. Ce moustique est transporté dans les coffres de vos voitures et transporté par les camions cargo ou par les trains eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'ils se dispersent.
Alors on va effectivement en parler du moustique tigre, Jean-François Guégan, mais quand même un mot par rapport à ce que nous disait Jean-Marie. Ce réchauffement, les gens ne le vivent pas forcément très bien. Quand on parle après de notre santé à tous, c'est pas anodin. Quand le climat change ?
Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a tout d'abord l'élévation de la température. On sait aujourd'hui que nous avons une élévation d'environ 0,6 à 0,7 degrés de plus qu'auparavant. Donc ça va avoir une importance pour énormément d'organismes. Franck pourrait y revenir. Mais ça va avoir énormément d'importance aussi sur la distribution, l'apparition d'un certain nombre de vecteurs et de réservoirs de maladies, ici dans le sud européen notamment. Mais deuxième élément, vous aurez aussi des événements extrêmes avec ce que nous vivons ici dans le sud de la France, qu'on appelle les épisodes Cévenol, avec des décharges massives d'eau en période d'automne. Eh bien, ces décharges importantes d'eau dans ces régions vont aussi alimenter les écosystèmes, noyer des écosystèmes qui ne le sont pas auparavant et créer des gîtes pour la reproduction de ces insectes. Donc, donner une deuxième chance à ces moustiques pour pouvoir se multiplier, se reproduire et vous piquer. Donc ça, c'est le deuxième événement, les événements extrêmes. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, en termes de santé, vous avez aussi toute la pollution atmosphérique, notamment dans les villes, hein, un peu partout dans le monde, et qui vont avoir énormément d'importance sur la physiologie, bien entendu animale, mais sur la physiologie humaine. Les gens vont faire développer des asthmes, on va avoir des complications respiratoires, des complications cardiaques. On pense aujourd'hui que entre 7 et 12 millions d'humains sur Terre, hein, je parle de la population mondiale, souffrent et meurent aujourd'hui de ces pollutions atmosphériques extrêmes telles que celles que l'on peut rencontrer dans les grandes villes, par exemple.
Effectivement, ce n'est pas anodin. Franck Courchamp, puisqu'on en est à des chiffres plus globaux sur les conséquences sur la population. La question du changement du climat, elle entraîne aussi des migrations à l'échelle planétaire. C'est pas un sujet négligeable non plus, surtout à l'heure où on parle beaucoup des migrants. J'ai vu des chiffres suite à la réunion qui a eu lieu à Medellin il y a pas très longtemps sur la biodiversité. Les scientifiques estiment qu'il y a 50 millions d'humains qui vont être contraints de migrer d'ici 2050 à cause de la détérioration des sols et même certains disent jusqu'à 700 millions de personnes si on ne fait rien.
Oui, c'est effectivement cet ordre de grandeur. Il faut voir que d'ici 2050, à peu près 75% de la population humaine vivra le long des côtes, déjà. Le changement climatique, ça veut dire l'élévation du niveau des mers. Ça veut dire aussi qu'énormément de ressources agricoles risquent d'être impactées directement, et notamment dans l'hémisphère sud. C'est vraiment l'hémisphère sud qui va le plus souffrir du changement climatique en termes de pertes agricoles. Ça veut dire aussi des pertes au niveau des pêcheries. Il y a à peu près 1 milliard d'êtres humains sur Terre dont la source de protéines principale, voire unique, c'est le poisson. Or, le changement climatique va également impacter les populations de poissons et quasiment tous les animaux marins. Parce qu'il va y avoir des changements de température, une élévation de température, parce que le CO2 absorbé par l'eau va empêcher la calcification de beaucoup d'organismes. Donc tous les organismes qui font des coquilles ou des carapaces, comme les crustacés ou les mollusques, ne vont plus pouvoir se calcifier. Il va y avoir aussi énormément de problèmes pour tout ce qui est coraux, parce que le changement climatique et le réchauffement de l'eau va faire ce qu'on appelle les blanchiments de ces coraux, qui vont les faire mourir. On s'attend à ce que d'ici quelques années, les études montrent que 95% des coraux de la barrière de corail, la grande barrière de corail en Australie, risquent d'être complètement détruites, définitivement détruites. Or, les coraux sont les nurseries pour les poissons et donc les hommes en dépendent aussi directement.
Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment pris conscience de tout ça?
Ça dépend qui est le « nous ».
Nous tous, ici, par exemple, en Occident, pour commencer,
France. En Occident, en France, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un réveil. J'ai vraiment l'impression que, au fur et à mesure que les États-Unis se retirent de tout ce qui est environnemental, la France remplit cette niche vide, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, on a l'impression qu'il y a un élan énorme. On a un ministre de l'écologie qui bénéficie d'un capital confiance.
Nicolas Hulot.
Voilà, qui est vraiment important et qui est à la fois passionné et compétent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Et j'ai l'impression, quand on regarde tout ce qui est climato-scepticisme ou même tout simplement rejet de la science, la France est plutôt bien.
Voilà, au moins un bon point. On repart au standard du téléphone sonne. Cette fois, c'est Carole qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Carole, bienvenue à vous.
Bonsoir.
On vous écoute.
C'est pour expliquer que les chauves-souris mangent les moustiques tigres, mangent les moustiques de toute façon. Faire la distinction nous-mêmes à la vitesse à laquelle ils volent entre le moustique tigre, c'est exactement comme les frelons d'ailleurs. Bon, bref. Il y a plein de solutions naturelles. C'est exactement comme en médecine. On n'est pas contre les opérations ni contre les antibiotiques. Mais on n'est pas systématiquement à prendre des antibiotiques. Dans la nature, il y a plein de choses.
Donc vive les chauves-souris pour éliminer le moustique-tigre.
Moi, je veux bien croire, je l'espère, j'aime beaucoup Nicolas Hulot, qu'il fait quelque chose. Simplement, écoutez, j'ai 68 ans, ça fait des années que ce discours, il ne faut pas l'oublier, on a fait 68, avant 68, on parlait déjà. L'écologie, on en parlait avant 68, on était déjà alarmés. Conrad Lorenz en avait déjà parlé, et d'autres, et Bombard, et Georges de Caunes. Et rien n'est fait. Rien n'est fait par aucun, parce que ce sont les hommes politiques qui doivent instruire en instaurant des émissions à la télévision, par exemple, cette merveilleuse télévision qui ne sert plus à rien. Tous les jeunes sont responsables par rapport à l'écologie. Tous ceux que je rencontre, à tous les niveaux, sont responsables. Mais ils ne sont pas... Ils s'en foutent.
Carole, vous permettez qu'on donne peut-être la parole à Jean-François Guégan, qui est un spécialiste du moustique tigre, et qui va peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu quel est le problème actuellement, puis qui nous parlera peut-être aussi des chauves-souris. Jean-François Guégan, ce moustique tigre, puisqu'il y a eu une alerte quand même des autorités il y a quelques jours, est-ce qu'on peut expliquer quelle est la situation? Il est arrivé en France il n'y a pas très longtemps et il étend son territoire?
Voilà, c'est ça. Bon, il est apparu il y a une vingtaine d'années, et notamment à partir de l'Albanie, mais s'il est arrivé dans ses... Puis ensuite, il se disperse en Italie, il remonte un peu plus vers le nord, et puis il se répand dans le sud européen, français notamment, et espagnol. Mais s'il apparaît en Albanie, puis en Italie, c'est d'abord par son transport, par des bateaux cargo qui vont faire le commerce de pneus réchappés. Pour des secondes utilisations notamment. Donc vous voyez qu'il apparaît notamment par voie de transport maritime.
Il vient de la forêt
donc,
tropicale,
il se répand.
Il s'adapte très bien à... Je dis il vient de la forêt tropicale du sud-est asiatique, mais il s'adapte très bien à nos contrées.
Voilà, bon, il a une capacité d'adaptation extraordinaire, mais des travaux d'ailleurs menés ici par deux jeunes collègues, donc Benjamin Roche et David Roise, ont très bien montré que c'est ce que je disais à l'instant, que ce moustique tigre, il embarque dans les coffres de voitures. Il y a eu un suivi extraordinaire qui a été fait en Espagne autour de David Roise il n'y a pas très longtemps et qui montre très bien que ce moustique tigre embarque à chaque fois que vous ouvrez l'arrière de votre coffre. Il va en profiter pour pouvoir s'y glisser et il vous accompagne en quelque sorte. Donc voilà.
Et le souci c'est quoi avec le moustique tigre, Jean-François Guégan, pardon. Le souci c'est quoi? C'est que ce moustique il peut transporter des maladies.
Alors voilà, donc voilà, il peut transporter un certain nombre d'agents infectieux, notamment viraux. Vous en avez parlé, de la dengue, le virus du chikungunya en particulier. Mais il faut être clair à ce sujet, c'est-à-dire que le moustique est important, bien entendu, pour le transport et l'inoculation de ces virus lorsque les personnes se font piquer par des insectes qui seraient eux-mêmes infectés. S'ils ne le sont pas, il va y avoir une piqûre qui va provoquer plus ou moins une gêne, mais il n'y aura pas le développement d'une infection et donc il n'y aura pas non plus le développement d'une maladie. Il faut, et c'est une condition absolument nécessaire, que ce moustique soit infecté. Donc il y a eu quelques cas de dengue ici dans le sud de la France, quelques cas d'autres pathologies virales transmises par ces virus qui ont été très vite circonscrits par nos services. Donc il faut pas confondre et faire une équation entre moustique égale maladie et égale, comme on l'a vu pour le Zika, ces fameuses microcéphalies où on vous a montré des images catastrophiques. C'est toujours catastrophique pour les mamans et les enfants qui en sont affectés, mais il y a pas d'égalité simple, vous voyez, entre moustique égale maladie égale ces problèmes pathologiques, voire ces morts. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un moustique ou des moustiques infectés et d'entraîner des épidémies ici dans le sud européen de dengue ou de chikungunya ou d'autres pathologies virales, comme on le voit sur des terrains tropicaux et en Afrique. Ce sont d'autres raisons qui expliquent ces épidémies, et notamment ce sont des raisons liées à la pauvreté en particulier et au défaut de nutrition.
En tout cas, les autorités demandent de signaler la présence de ce moustique tigre quand quelqu'un pense en avoir un dans son jardin. On précise juste que c'est un petit moustique, tout petit, qui est tigré, c'est ça, Franck Courchamp? On le reconnaît comme ça?
On le voit assez bien, il est tigré blanc et noir, on aurait pu l'appeler le moustique zèbre. Donc il est assez facile à reconnaître. De toute façon, quand vous avez un moustique sur la main, attendez pas trop, écrasez-le de toute façon.
Et pour éviter d'en avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter les eaux stagnantes, il faut...
Voilà, il faut surveiller que, par exemple, dans son jardin, on n'a pas des pots de fleurs avec de l'eau qui traîne, on n'a pas un seau avec de l'eau qui traîne ou un vieux pneu avec de l'eau, parce que les moustiques font leurs œufs dans ces eaux stagnantes et les larves vont donc éclore. Et c'est vraiment ça qui maintient la population de moustiques, surtout
avec des hivers qui sont de plus en plus doux et qui donc n'éliminent pas les populations pendant l'hiver.
Et les chauves-souris, comme disait Carole ?
Alors, oui, ce qu'il faut voir, c'est que les moustiques, c'est quand même important pour l'écosystème. Il y a énormément d'animaux qui les mangent, les oiseaux, les grenouilles, les poissons qui mangent les larves, les chauves-souris. Mais on ne peut pas se reposer uniquement sur ça. De toute façon, les chauves-souris, elles mangent autre chose. Et puis, les chauves-souris, elles sont impactées aussi par le changement climatique, par la destruction de leur habitat, etc. Donc, c'est vrai que normalement, un écosystème qui fonctionne bien, il résout les problèmes, entre guillemets. Mais là, nos écosystèmes, ils ne fonctionnent plus très bien.
Il ne fonctionne plus très bien et c'est ça le problème. On repart au standard du téléphone sonne.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Martine est en Seine-et-Marne et elle nous appelle ce soir. Bonsoir Martine.
Bonsoir à tous.
Vous êtes à Fontenay, dites-nous tout.
Moi j'habite dans un petit village de Seine-et-Marne qui est contaminé depuis 7 et 8 ans par des chenilles processionnaires du chêne, je précise bien du chêne, ce qui rend vraiment intolérable parfois la vie des habitants. Donc moi je vous pose la question suivante, pourquoi en fait on constate cette présence de chenilles processionnaires? Pourquoi s'étend-elle de plus en plus sur les territoires depuis les années? On a constaté quand même qu'au fil des ans, elle faisait plusieurs dizaines de kilomètres. Moi j'ai été présidente d'une association pour alerter, pour informer, pour fédérer des actions pendant de nombreuses années. C'est vraiment une catastrophe sanitaire, les poils de chenilles sont extrêmement urticants. Chaque année, des personnes se retrouvent aux urgences, développent des œdèmes de Quick, etc. On ne compte plus le nombre d'animaux qui ont été euthanasiés. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Et effectivement, on a fait des recherches sur les mésanges qui sont des prédateurs, sur les chauves-souris. Mais en fait, ce sont des petites mesures qui répondent difficilement vraiment aux problèmes chaque année récurrents. Et les populations se sentent vraiment délaissées, démunies. Et parfois, ce sont des véritables catastrophes pour les familles qui ne peuvent plus utiliser leur jardin pendant 2 ou 3 mois l'été.
Merci beaucoup, Martine, pour cette intervention. Franck Courchamp, qu'est-ce qu'on fait avec ces nuisibles là? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a deux choses pour expliquer ce qui se passe. D'une part, les insectes sont des animaux à sang froid, donc ils sont très sensibles à la température et donc au climat. Et en général, lorsqu'ils sont dans une zone où ils n'ont pas évolué, ils ne passent pas l'hiver, parce que l'hiver est trop froid. Avec le changement climatique, les espèces d'insectes remontent de plus en plus au nord, dans l'hémisphère nord, parce que le climat devient de plus en plus favorable à leur établissement. Et c'est ce qu'on observe avec la chenille processionnaire qu'on a vu remonter au fil des années au nord de la France. La deuxième chose, c'est que avec les problèmes de changement climatique, il y a un décalage entre le rythme le cycle de vie de certaines espèces et de leurs proies. Comme par exemple des oiseaux, le pic de naissance des oiseaux, là où ils vont chercher énormément de chenilles pour nourrir leurs petits, et le pic d'éclosion de ces chenilles. Et comme il y a un décalage, eh bien à la fois les oiseaux n'arrivent plus à nourrir correctement leurs petits et donc à maintenir des populations stables, et à la fois les insectes et notamment les chenilles peuvent pulluler parce que en plus d'avoir des conditions climatiques favorables, elles ont moins de prédateurs.
Un tout équilibre qui est atteint. Jean-François Guégan, peut-être une réaction vous aussi sur cette question-là?
Oui. Oui, absolument. Le rôle des prédateurs est très bien argumenté en épidémiologie. On possède énormément de travaux qui mettent en évidence l'importance de la disparition des prédateurs, des oiseaux, des rapaces en particulier. Et donc, leur défaut dans les écosystèmes tend à voir croître un certain nombre d'agents pathogènes à circuler, d'ailleurs pour la faune, pour l'humain, mais aussi pour les plantes. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Franck Courchamp à l'instant. Si on avait fait une carte en 1900 des habitats en France susceptibles de pouvoir abriter des insectes d'origine, des insectes donc vecteurs de pathologies tropicales, on en avait, et en dehors de tout contexte de changement climatique, bien entendu. Vous prenez la vallée de la Loire. Présente des habitats très propices à la pullulation et à la reproduction d'un certain nombre d'insectes qui pourraient être d'origine tropicale. Et il faut aussi bien pointer du doigt que dans certaines régions en France, mais partout en Europe, vous prenez l'exemple par exemple de la Bretagne dans les années 1830, les gens mouraient de la fièvre des marécages qui est le paludisme, d'où son nom en anglais et en italien, la malaria. La percée du canal de Nantes à Brest dans les années environ 1830, on a assisté chez les bagnards qui étaient utilisés pour creuser ce canal, parce qu'il traversait bien entendu des zones humides, à des mortalités très importantes de bagnards qui contractaient le paludisme et qui mouraient du paludisme. Et à cette époque-là, on peut penser que juste après le développement de l'ère industrielle, bien entendu, le changement climatique avait commencé. Mais vous voyez, des pathologies de ce type, elles existaient auparavant en Europe. Merci. Et des gens en mouraient.
Merci beaucoup Jean-François Guégan. Franck Courchamp, vous souhaitiez dire un petit mot, puis après on repartira au standard.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a le changement climatique et il y a le fait que les invasions biologiques, donc les introductions d'espèces qui viennent d'autres écosystèmes et qui peuvent maintenant s'établir, sont favorisés bon, non seulement par le changement climatique, mais également par l'augmentation des échanges, des transports, du commerce, ce qui fait qu'on a des apports de nouveaux vecteurs de maladies. On a fait dans notre labo des études sur des projections sur le futur et sur l'ensemble des espèces d'insectes qu'on a regardées. D'ici quelques décennies, on a une augmentation d'à peu près 18% des aires favorables à l'invasion juste pour ces insectes.
Ça fait froid dans le dos, ce que vous nous annoncez là. On repart au standard de France Inter, c'est Jackie qui est en ligne de Sommières. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Claire Sarbajon,
bienvenue
bonsoir France
à
Inter et les invités. Merci. Alors, écoutez, j'apprécie beaucoup les propos des invités encore ce soir, mais je voudrais qu'on prenne un petit peu de hauteur par rapport au thème de l'émission, qui est le changement climatique, quel est l'impact sur la biodiversité. Alors effectivement, des niches de problèmes comme le moustique ou comme l'abeille ou comme plein d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a la possibilité de l'arrêt du Gulf Stream à cause du réchauffement climatique, il y a l'extraction des sables bitumineux et des schistes bitumeux et la fracturation hydraulique qui amène encore plus de pétrole. Il y a la fonte du pergélisol, c'est-à-dire les glaces qui sont près de Sibérie qui relâchent du méthane. Il y a les 70 000 tonnes de pesticides en France qui sont déversées sur les champs. Il y a les pouponnières, les coraux, effectivement, qui sont en train de blanchir, c'est d'actualité. C'est récurrent.
Une petite question, Jackie,
voilà, peut-être. Oui, alors, non, des tas de niches comme ça écologiques, il y en a des tas. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je voudrais qu'on prenne un petit peu de hauteur. Qu'en est-il de la volonté politique ? Parce que la baisse de la consommation de pétrole, c'est-à-dire la concentration de particules par million de CO2 qui fait le réchauffement climatique, de notre petite planète où il y a une petite pellicule d'oxygène et qui nous permet de vivre, elle était de 290 particules par million en 1900. Elle était de 320 en 2000, et elle est de 380 à 400, on ne sait pas trop bien, aujourd'hui en 2018. Et ça met 20 ans pour arriver dans l'atmosphère. C'est-à-dire que ce qu'on rejette aujourd'hui, on va l'avoir dans 20 ans.
Merci. Alors, Jackie, on essaye de décoller peut-être et de prendre de la hauteur avec...
Oui, voilà, s'il vous plaît. Dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une politique qui soit pour la décroissance, contre la croissance ? Parce que la croissance est liée au pétrole.
Merci,
il y avait 87 Jackie. Milliards de barils. Et aujourd'hui, on est revenu à l'époque de 2008-2009 où il y avait la récession qui a fait la baisse de pétrole.
On vous répond.
Aujourd'hui, on est revenu à la même chose.
C'est promis.
Alors, quelle est la politique qu'on peut mettre en place pour réduire la production de pétrole et empêcher justement le réchauffement climatique qui va porter tout un tas de problèmes de changement de la biodiversité dans les années à venir ?
Voilà, c'est une longue question qui demande de prendre de la hauteur et de... Qui veut répondre ? Franck Courchamp, tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que vous étiez plutôt optimiste, vos questions, réactions politiques.
Voilà, disons que je suis plutôt optimiste dans un contexte pessimiste, parce que, bon, c'est vrai qu'il a raison. Le problème de la politique est... Jean-François Guégan et moi-même, nous sommes des scientifiques, pas des politiciens. Mais le problème est que les politiciens travaillent à une échelle de temps et à une échelle d'espace qui est complètement différente de celle des enjeux environnementaux. Les politiciens, en général,
ont pour intérêt de se faire élire à la fin de leur mandat, qui est de dans le meilleur des 4-5 ans. Alors je dis pas qu'ils veulent pas faire du bon travail, mais c'est pour faire du bon travail, ils ont intérêt à se faire réélire puisqu'ils sont professionnels de la politique. Et en général, ils essaient de résoudre des problèmes à un niveau local, voire régional, alors que les problèmes environnementaux et climatiques sont des problèmes à plusieurs décennies et sont globaux.
Et puis c'est vrai qu'il y a des résistances, parce que quand on prend la biodiversité, on a vu par exemple cette semaine une manifestation, 1200 personnes dans les rues de Pau contre la réintroduction de l'ours. Dans les Pyrénées, il faut tenir compte aussi de la vie quotidienne des gens, et il y a des résistances de ce côté-là.
Ouais, alors il y a des résistances pour certaines choses, comme par exemple avoir un grand prédateur autour de chez soi. Après, bon, ça c'est un problème complètement différent, le fait que la perception de certains animaux très charismatiques pour les gens est assez ambivalente. On adore ces animaux, tous les animaux les plus charismatiques, la plupart sont des grands prédateurs, mais en même temps, ce sont ceux qu'on persécute et qu'on tue.
Merci beaucoup. Jean-François Guégan, est-ce qu'il faudrait être plus volontariste en matière d'environnement ?
Je pense que des progrès quand même très importants ont été faits, en particulier en France, quand vous voyez tous les travaux, non seulement de recherche, mais les applications qui sont faites aujourd'hui autour de l'utilisation de la biodiversité, et notamment l'apparition de nouvelles variétés végétales, ou en fait plutôt des anciennes qu'on avait complètement oubliées, qui reviennent sur le marché et qu'on utilise aujourd'hui. Voyez, donc pour moi des choses extraordinaires à se passer. Je vois l'INRA sur ces sujets-là fait un travail extraordinaire. Vous prenez les ministres, moi je ne défends personne, mais le travail qu'a pu faire un ministre comme de l'agriculture comme Stéphane Le Foll, c'est quand même une très très nette évolution, hein. Donc il faut aussi prendre tout ceci en compte, je pense. Mais moi je voulais réagir, l'homme a aussi des capacités extraordinaires. Vous prenez des populations d'ethnies du Niger ou du Burkina Faso, en moins de 5 ans, elles sont capables, face à ce problème du changement climatique, quand vous vivez à 42 degrés et que vous ne recevez plus d'eau pendant 6 mois, elles adaptent leurs pratiques et leur agriculture en utilisant d'autres variétés de plantes, des plantes orphelines, des variétés qui avaient été complètement négligées, d'où l'importance d'étudier cette diversité générale. Des plantes en particulier, que vous pouvez réintroduire dans le cadre d'un contexte de changement climatique. Et ça se passe. Vous voyez, des civilisations, des populations africaines, en moins de 5 ans, convertissent leur mode d'agriculture, leur et leurs pratiques à ce propos.
Il faudrait qu'on prenne exemple sur eux.
Effectivement, ça c'était le commentaire de Franck Courchamp. On repart au standard. Christian attend depuis un petit moment. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir à toutes et
merci
à tous.
Merci pour votre patience.
Voilà. Alors déjà, très rapidement, je rejoins Jean-François Guégan qui parlait du paludisme au 19e. Moi j'habite, j'ai la chance d'habiter dans les bois, dans une commune qui est en Sologne, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Orléans. Mais au 19e siècle, avant qu'on fasse les travaux, notamment sous l'impulsion de Napoléon III, il y avait énormément de marais et tout ça, et d'ailleurs les Solognos étaient surnommés les ventres jaunes parce qu'ils avaient le paludisme. Alors, moi j'ai une observation à faire. Toutes les personnes qui ont 50 ans ou plus, qui prenaient leur voiture par une belle soirée, une belle nuit au beau jour, il y a ne serait-ce qu'une trentaine d'années, voyez leur pare-brise littéralement couvert d'insectes écrasés. Les phares même éclairaient moins parce qu'il y avait une couche d'insectes, et on était très contents de trouver une station-service parce qu'on n'arrivait pas à nettoyer. Pour laver le pare-brise, on n'arrivait pas avec les essuie-glaces à laver les...
Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis obligé de vous presser un petit peu, Christian.
Des centaines de kilomètres, quand vous avez trois insectes, c'est le bout du monde. Et bien évidemment, tous les oiseaux insectivores n'ont plus cette nourriture d'insectes. Ben, ils disparaissent, c'est pas étonnant. Alors, je crois que cette disparition, je parle sous le contrôle de vos spécialistes, est davantage due aux saletés, aux produits pesticides qu'on emploie outrance.
Alors on va les laisser répondre peut-être, Christian. Et on vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Voilà, Christian est triste, il n'y a plus d'insectes sur son pare-brise, Franck Courchamp.
Non mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on se fait. On peut essayer de faire un test auprès des auditeurs. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois un ver luisant ? Quand est-ce que vous avez vu une taupe pour la dernière fois ? Quand est-ce que vous avez vu un véritable champ de papillons et non pas juste deux, trois qui se baladent en duel? Je me rappelle avoir vu ça et je ne suis pas si vieux que ça, en tout cas en termes de durée d'espèce. C'est vrai que la biodiversité, et même la biodiversité qu'on appelle commune, disparaît très très vite. Elle disparaît très très vite alors que l'impact du changement climatique ne s'est pas encore fait pleinement sentir sur justement sur les espèces. Pour l'instant, on voit surtout les effets effectivement de la pollution, des invasions biologiques, de la dégradation de l'habitat. Tous ces effets entrent en synergie et les effets du changement climatique sont en train d'arriver.
Moi, je voudrais vous poser une question, Franck Courchamp. Alors, on quitte complètement les insectes et la situation ici en France, parce que vous êtes intéressé aussi, vous, aux espèces sauvages les plus populaires, celles de nos peluches, de nos dessins animés. Et vous dites, à force de voir Sophie la girafe dans le berceau des enfants ou de voir tous ces animaux dans les dessins animés, on oublie qu'ils sont en danger dans la nature.
Oui, en fait, on a une perception qui est complètement faussée de leur rareté. On a l'impression que ce sont des animaux qui sont communs, le lion et la girafe sont des bons exemples, alors que ce sont des espèces qui sont fortement menacées. Il y a une espèce de girafe qui a perdu 97% de ses effectifs en 35 ans, la girafe de Nubie. Les lions, d'ici 20 ans, il n'y en aura plus à l'état sauvage. Et ça, c'est aussi problématique parce que, étant donné qu'il n'y a pas de support, de soutien du public pour leur conservation, et c'est normal qu'il n'y en ait pas si on ne pense pas qu'ils sont en train de disparaître, on risque non pas de les faire s'éteindre, mais de ne pas les aider à survivre.
Donc il faut cette prise de conscience de ce côté-là. Il est pratiquement 19h57, cette émission est allée très très vite. Jean-François Guégan, vous avez droit à une minute de conclusion en direct de Montpellier.
Pour poursuivre ce que vient de dire Franck Courchamp. Donc on a parlé de d'organismes et donc d'animaux dans ce cas-là, avec l'exemple des girafes citées. Visible, mais chacun de ces organismes, mais même nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des micro-organismes, ne serait-ce que sur notre peau, dans nos intestins. Et aujourd'hui, le changement climatique, mais aussi la pollution de l'air, l'utilisation massive de pesticides, insecticides, mais aussi de médicaments, comme les antibiotiques, modifient ce qu'on appelle ce microbiome, c'est-à-dire finalement ces micro-organismes qui font que nous existons aujourd'hui et conduisent à entraîner un certain nombre de nouvelles pathologies qui sont en train d'émerger. Et donc, si vous voulez, vous avez la partie de la vie vivante, mais la partie de la vie vivante que vous observez, elle n'existe que parce que elle est constituée aussi de micro-organismes, dont une très grande partie, ne l'oublions pas, sont plutôt des organismes positifs pour nos existences, alors qu'on en voit une partie de l'iceberg, donc la partie émergée,
merci.
Qui est pathogène.
Ouais. Merci beaucoup Jean-François Guégan. Le mot de la fin pour vous, Franck Courchamp. Nous sommes tous sur le même bateau, c'est ça? C'est une chaîne générale?
Alors, nous sommes tous sur le même bateau. La plupart des gens sont en train soit de regarder ailleurs, soit de se taper dessus. Et pendant ce temps-là, il y a le feu dans le bateau et il n'y a personne qui se dit que c'est plus important que de savoir qui c'est qui va gagner, ceux qui se tapent dessus.
Morale de l'histoire, il faut s'en occuper rapidement, hein?
Notre environnement de vie, il n'y a pas plus important.
Merci beaucoup Franck Courchamp. Je rappelle le titre de votre livre Grand public, l'écologie pour les nuls, c'est chez First Edition. Merci à Jean-François Guégan, merci à vous tous de nous avoir appelés, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, merci à Antoine Liffaut, à la programmation musicale ce soir de ce 18-20 Jean-Baptiste Audibert, à la technique Arnaud Caillé, Patrick-Henri Alexandre Chenet. Un grand merci également à nos confrères de France Bleu Héros et aux standardistes du Téléphone Sonne.